carnet de campagne. Bonjour, troisième étape dans les Bouches-du-Rhône. Je voudrais saluer l'opiniâtreté dont fait preuve l'association Vélo en ville, Vélo pluriel, pour faire respecter le vélo à Marseille et obtenir des pistes cyclables dignes de ce nom. Créé en 1996, ce collectif compte 1600 membres. Oh, c'est impressionnant, mais c'est à l'échelle de la ville. Vélo en ville, c'est bien sûr un atelier de réparation de recyclage. Ça me fait toujours sourire de dire recycler la bicyclette. C'est également un ou une vélo-école, je sais pas comment on dit, pour adultes, et un organisateur de sorties à thème. L'association participe aussi à des programmes ou des projets d'éco-mobilité en ville en apportant son expertise. Seulement, les victoires sont longues à venir, comme c'est le cas pour les cyclistes cyclotouristes qui attendent des aménagements de la célèbre corniche Kennedy. La corniche qui surplombe la mer est une sorte de circuit de Monaco marseillais qui laisse peu de place au vélo et parfois peu de chance aux cyclistes. Les travaux actuels devraient enfin donner corps à une piste cyclable dès l'été prochain, une sorte de petite compensation au plan vélo d'antan qui devait permettre la création de la piste cyclable du grand littoral de l'Estac au Goude. Bon, on peut pas avoir la mer et être amer, donc quoique, vélo en ville, donc le site c'est .org, véloenville.org. Au menu de ce mercredi, un institut de musique du monde d'excellente tenue par les formations, les concerts et les classes de perfectionnement qu'il offre à Aubagne. Cet institut international des musiques du monde a été fondé par Margaret Pugh de Chenot, première invitée, puis une association indépendante sans subvention, révélatrice des talents et des solutions de vie et de travail à Marseille. C'est Marseille Solutions, représentée par notre seconde invitée, Mathilde de Gardien.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Margaret Pugh de Chenot, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes directrice fondatrice d'un institut international des musiques du monde, inauguré à Aubagne en 2016. Merci à Perrine qui nous a envoyé des informations pour vous nous alerter de l'existence, du développement de votre institut. Avant d'entrer dans le détail, elle nous spécifiait quand même que vous aviez quelques soucis de subventions et d'aide pour continuer à développer toutes vos activités.
Effectivement, nous sommes une structure qui est à cheval entre sa consolidation et son développement. Et effectivement, la venue sur le paysage culturel de cette structure entraîne forcément des questionnements sur sa légitimité. Par contre, nous avons vraiment eu la chance d'avoir la ville d'Aubagne qui nous soutient depuis le lancement de ce projet et aussi le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Alors, chez vous, on peut écouter, dresser l'oreille à la découverte de ces musiques du monde dont on va parler. On peut se former, on peut suivre des masterclass, on peut suivre des cursus d'enseignement diplômant, soit chez vous à Aubagne, soit au conservatoire d'Aubagne, soit au conservatoire de Marseille. Il y a également des masterclass, mais vous parlez plus spécialement, Margaret, de musique de tradition savante.
Oui, en effet, l'objectif, si vous voulez, c'est de valoriser les méthodes d'enseignement pédagogique telles qu'on nous les trouvons dans les conservatoires à l'étranger.
Et quand on dit musique savante, il y a toujours un doute, à savoir que c'est une musique, et on parle de musique élitiste.
Pas forcément, hein, puisqu'on aura aussi des musiques traditionnelles qui sont profondément ancrées aussi au sein de ces établissements d'enseignement artistique supérieur à l'étranger.
Ça implique une diversité d'enseignement et donc une diversité d'enseignants.
Complètement. La grande chance que nous avons ici sur notre territoire, c'est que nous avons des enseignants qui sont issus de l'ensemble de ces conservatoires des quatre coins du monde, mais qui résident dans notre région. Et le fait de les avoir sur le territoire nous permet vraiment de mettre en valeur leurs compétences, leur expérience, et aussi d'utiliser les méthodes pédagogiques telles que eux-mêmes ont appris de leurs propres maîtres et de les mettre en application au sein de l'Institut.
Je prends des exemples pendant ce mois de mars, André Dominici pour les polyphonies corses.
Alors, les masterclass restent une activité ponctuelle. Et effectivement, donc là, sur le mois de mars, nous avons André Dominici pour les polyphonies corses. Et ensuite, nous avons aussi Joanie Curté pour les chants diphoniques de Mongolie, qui est un grand ethnomusicologue spécialiste du répertoire. Et nous avons vraiment la chance pour ce mois de mars d'avoir ces deux personnes-là à Aubagne.
Vous avez beaucoup de professionnels qui viennent fréquenter les cours ?
Complètement. Nous avons des artistes professionnels, nous avons des artistes amateurs éclairés, nous avons vraiment tout type de figures, c'est-à-dire que ça part du plus jeune âge, c'est-à-dire même de l'âge de 7 ans, jusqu'à 70 ans. Nous sommes vraiment dans cette volonté d'ouverture de la musique de tous pour tous. Et effectivement, nous avons des professionnels, il peut y avoir aussi des chercheurs, des musicologues, il peut y avoir des artistes de renom aussi qui viennent chez nous, parce que bien évidemment, puiser les grandes connaissances ou élargir ses propres compétences auprès de ces grands maîtres, notamment pour nos cursus, et bien évidemment, c'est quelque chose de précieux puisqu'il n'existe je ne pense pas, en tout cas à ma connaissance, d'un établissement aussi singulier que le nôtre en France. Mmh. D'ailleurs, les gens viennent des quatre coins de la France, voire de l'étranger, pour suivre à la fois nos cursus, voire même nos masterclass.
Ouais, chapeau. Alors, je disais, on peut dresser l'oreille grâce à vous, et en particulier grâce à des concerts. Le prochain, le 15 mars, au Théâtre Comédia d'Aubagne, avec Barbara Fortuna.
Voilà, Barbara Fortuna, qui est un ensemble qui revisite la tradition vivante des chants polyphoniques corses. Barbara Fortuna, donc, à l'occasion de ce concert, présentera à la fois le patrimoine vocal séculaire, donc à travers des répertoires sacrés, mais aussi des créations vivantes pour expliquer que la musique et les traditions se renouvellent. Et c'est de cette façon-là aussi que les musiques se transmettent.
Vous préservez une biodiversité culturelle, en fait.
Exactement.
Ouais, c'est tout bien. À fait. L'Institut tout international des musiques du monde, remarquable à Aubagne, des liens à nos pages d'émission. Bravo et merci Margaret.
Merci à vous Philippe, merci infiniment.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Le rallumeur d'étoiles, c'est le nom choisi après concertation par les bénévoles qui étaient soucieux d'ouvrir un café associatif à Martigues. Ouvert du mercredi au dimanche, cet espace est, je cite, un lieu d'expression, il y a beaucoup de concerts, un catalyseur d'initiatives populaires citoyennes et associatives. C'est aussi un lieu de vente de produits locaux ou biologiques, d'ateliers et de débats. Bref, en revendiquant son appartenance à une économie sociale et solidaire, le rallumeur d'étoiles s'inscrit dans les innombrables initiatives alternatives. Seulement, les parcours de ces structures ne sont pas tout repos, à l'image de lieux culturels et citoyens qui se voient dans l'obligation de réduire leurs activités et parfois de les abandonner, comme c'est le cas, hélas, pour la salle de spectacle de l'Électrode à Miramas. En attendant, le rallumeur a repris ses activités pour 2019 avec en premier point son Tea Time, son atelier de discussion en anglais, un why not. Rallumeurdétoiles.com pour l'adresse. Avec nous, Mathilde Gardien, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis votre lointaine capitale de Marseille. Vous nous rejoignez pour parler d'une association que je trouve vraiment formidable, que vous co-dirigez, qui s'appelle Marseille Solutions. C'est vrai qu'on cite souvent les problèmes de Marseille, mais pas les solutions. Vous allez nous expliquer quel type de solution. Mais d'après ce que j'ai compris, votre association joue le rôle quasiment d'arbitre des solutions avec différents partenaires. Ça peut être les collectivités, ça peut être des entreprises.
Alors tout d'abord, merci à vous pour l'invitation.
Welcome.
Effectivement, Marseille Solutions, peut-être en deux mots redire pourquoi Marseille, pour ensuite répondre à votre question. Marseille, c'est une ville mondialement connue, la Provence même est mondialement connue, c'est une ville très connectée, on a trois gares TGV, un port, un aéroport, il y a des millions de touristes.
Vous êtes la porte-parole de Jean-Claude Gaudin, en fait.
Non, c'est ça. je ne suis pas sa porte-parole, mais justement, je vais venir à l'autre côté aussi de la carte postale. Marseille donc est une ville avec aussi de nombreuses filières d'excellence, que ce soit dans la tech, la santé ou la gastronomie. Mais à côté de ça, parallèlement, on a aussi une ville qui décroche, une ville qui fait partie des plus inégalitaires de France. Et donc c'est une ville effectivement qui est une ville à problème, ça c'est connu. Ce qu'on connaît moins, c'est aussi c'est une ville de ressources, qu'elle soit naturelle ou humaine. Et justement, c'est pas pour rien qu'on a posé nos valises à Marseille pour monter cette association qui vise à monter des projets ambitieux au service de l'intérêt général à Marseille. Pas forcément en montant des startups qui est un peu le modèle omniprésent dans l'innovation, mais en montant des alliances inédites entre des collectivités, des entreprises, des associations, des habitants. Pour,
et même des grandes écoles.
Et même des grandes écoles, effectivement, comme Centrale Marseille, avec qui nous avons monté une des premières solutions qui s'appelle Passerelle Numérique, qui aide des jeunes ou des moins jeunes qui sont éloignés de l'emploi pour diverses raisons à travailler sur les métiers du code.
Mais vous opérez comment, Mathilde ? Vous avez une personne qui a une idée, un projet, et vous allez chercher les partenaires potentiels pour monter ce projet ?
Alors, ce qui fait peut-être notre spécificité par rapport à des modèles d'incubateurs ou d'agences de conseil, par exemple, c'est que nous sommes souvent à l'origine des solutions que nous montons. Parfois, des entreprises ou des collectivités, des associations viennent nous voir parce qu'elles ont une idée, Parfois, c'est l'inverse. C'est nous qui nous disions, il faudrait à tout prix qu'on réponde à ce problème. On a des inspirations à l'étranger. Et ensuite, on se dit, bah, qui pourrait porter ça? Et on va faire en sorte de mettre les acteurs autour de la table pour trouver qui fait quoi, en fait. Donc, ça nous amène à travailler avec Pôle emploi beaucoup, avec des entreprises, etc.
Mais dites donc, vous avez gagné un sacré crédit auprès des partenaires, parce que depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans qu'existe l'association, il y a une trentaine de projets lancés. C'est pas n'importe quoi. Il y a un problème, alors, des personnes défavorisées, il y a beaucoup de SDF aussi. Vous êtes sur une occupation temporaire d'un très grand bâtiment qui appartient à l'État, sous le nom Coco Velten.
Oui, alors effectivement, ce projet, il est né d'une alliance entre les services immobiliers de l'État et 3 associations que nous avons mobilisées par la suite, qui sont Yes We Camp, Plateau Urbain et le groupe SOS. Ça a été un travail de conviction, un travail qui a pris du temps, mais de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait à Marseille, qui était d'occuper 4000 m2 qui étaient vacants, qui n'étaient donc pas utilisés, pour permettre de loger une centaine de personnes sans abri, mais de ne surtout pas en faire un ghetto de pauvres, mais d'en faire vraiment quelque chose d'utilisation mixte, avec des associations qui ont leur siège, un restaurant qui sera ouvert au public.
Donc il y a de l'activité, lieu, voilà. Du logement, et il y a à la fois le travail social et le travail économique à l'intérieur.
C'est ça.
De ce bâtiment.
Et l'idée, c'est que les gens n'y viendront pas pour faire du social, ils y viendront parce que ils pourront manger, il y aura des activités de toutes sortes. Et donc, c'est très important aussi symboliquement pour les personnes hébergées.
Quoi, non, c'est bien, alors on peut pas citer les autres projets parce qu'il y a une boutique école, Scola, alors pour les jeunes qui veulent mettre un premier pied et avoir une première expérience dans la vente, c'est possible. Vous n'avez pas l'accent, Mathilde, parce que vous êtes originaire de Chambéry, mais vous avez bien assimilé le vocabulaire local, puisqu'il y a aussi le programme des gains sans stage, autrement dit, personne sans stage,
oui.
Et c'est de permettre à des jeunes de zones prioritaires de se lancer dans un stage auprès d'une entreprise.
Effectivement, alors peut-être si je peux en dire 2 mots, ça c'est un programme qui a été vraiment impulsé par l'entreprise Provepharm, qui est une entreprise dans le secteur de la santé dans les quartiers nord de Marseille, qui a réussi. Et Christophe Baralotto, son fondateur, voulait agir pour l'égalité des chances, sans savoir forcément comment démarrer. Donc on a eu ensemble l'idée, avec d'autres acteurs, de lancer un défi. Et ce qui est différent, c'est que c'est une entreprise qui parle aux entreprises pour dire des gains, c'est-à-dire personnes sans stage, à Marseille, avec le critère, bien sûr, d'appartenir à un réseau d'éducation prioritaire. Donc ça a très bien marché sur la première édition. Et là, pour 2018-2019, on vise 500. Et à horizon quelques années, on vise 2500. Qui ont un stage de qualité, parce que c'est là que ça démarre. Ça peut paraître anecdotique, le stage de 3e, mais c'est une des premières discriminations. Et se rendre compte que c'est possible, qu'on peut avoir accès à des métiers plus tard de qualité, ça démarre par là aussi.
Moi, je serais maire de Marseille, je vous donnerais le volet social et économique, hein, d'emblée. Le site, c'est marseille-solutions au pluriel.fr. Merci Mathilde.
Merci à vous, au revoir.